cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refuserons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Je n'arriverai pas, je ne suis pas prêt, il n'a pas pour partir à la guerre. Je ne comprends pas.
Un mot trop et c'est un mot plus en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic du flingue de classe. Les flics, la police et le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Ta frère meurt. Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare-poil.
Avec le GREMOS. Donc, le GREMOS, c'est le groupement de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers stéphanois. Donc, c'est un groupe qui est né plus ou moins à l'université à Saint-Étienne, un groupe pluridisciplinaire, mais qui a vocation à être plus large que ça. Enfin, on reviendra là-dessus. Donc, justement, pendant 20 minutes, on va présenter le GREMOS. Et ensuite, on reviendra sur une des recherches qui est menée au sein du GREMOS, qui est la recherche sur la grève des mineurs de 1948 à Saint-Étienne, avec Maurice Bédouin, qui est historien, et qui nous en parlera. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite commencer. Donc avec Fred et Daniel et Maurice, qui sont membres du GREMOS.
Bonjour.
Ça fait à peu près 2-3 ans que. Enfin, c'est un organisme récent, donc, qui est né d'une opportunité de la rencontre entre Jean-Michel Steiner, un historien qui fait partie de l'Institut universitaire de recherche sur le patrimoine, et de moi-même, donc Daniel Colson, qui est sociologue et qui fait partie du MODIS, une équipe de recherche de sociologie. Et donc, on s'est rencontrés avec Jean-Michel et Corinne Porte, qui, elle, a un profil différent, puisqu'elle vient de changer de... Elle a été mutée, elle a eu un nouveau poste aux archives départementales de l'Ardèche, mais elle était directrice des archives municipales de Saint-Étienne. Et donc, on est les trois à s'être rencontrés sur un projet, sur un problème plus général. C'est le sentiment d'une urgence, c'est-à-dire que la ville de Saint-Étienne et le bassin stéphanois avec la vallée du Gier et la vallée de l'Ondaine a connu pendant une centaine d'années ce qu'on pourrait appeler une civilisation qui a autant d'importance que les Incas ou les Mésopotamiens. Et cette civilisation, c'est une civilisation ouvrière dans la mesure où le bassin stéphanois était un bassin ouvrier très important, un des plus importants de France. Et qu'il a connu une vie ouvrière et un monde ouvrier particulièrement fort, dynamique et vivant. Et que ce monde, eh bien, il est en train de s'engloutir sans laisser la moindre trace. Or, on est un certain nombre de chercheurs, mais pas seulement de chercheurs, à penser que que ce monde, cette civilisation particulière, apporte des valeurs et des modalités de fonctionnement qui sont extrêmement précieuses, même dans un contexte complètement différent. Donc le Grémaux, c'est très modeste, mais il s'inscrit dans un foisonnement d'initiatives pour essayer de sauver la mémoire et les souvenirs. Et donc, on en est très heureux et on invite tout le monde à ne pas jeter les vieux papiers du grand-père dans le grenier quand c'est quelqu'un qui peut être un militant ouvrier où on pense qu'il a eu une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et pas du tout. Il est porteur de données très importantes. Et donc, le Grémaux voudrait prendre sa place dans ce foisonnement et contribuer à ce que ce foisonnement se coordonne, donne naissance à quelque chose de plus efficace pour garder la mémoire ouvrière.
D'accord. Et quand en fait, tu parles de sauver la mémoire ouvrière, ça se fait par quels moyens, quels sont du coup les moyens pour sauver cette mémoire-là ?
Eh bien, le moyen, il y en a deux grands, il y en a sans doute d'autres, mais c'est soit les sources écrites, donc les archives, les journaux, etc. Ça, ça se détruit, ça se perd, mais il y a quelques chances de les garder. Il y a les archives privées, donc il y a eu tout un effort des archives départementales et des archives municipales vis-à-vis des archives privées. Donc je redis, quand quelqu'un, avant de vider un grenier, regardez ce qu'il y a dedans, et une correspondance peut avoir une importance très grande du point de vue des valeurs humaines et des sciences, pour ce qui nous concerne. Donc c'est cette source-là, mais l'autre source qui est très importante et où il y a tout un effort qui est fait là-dessus, c'est la mémoire orale. Donc on disait qu'en Afrique, un vieillard, quand il mourait, c'était une bibliothèque qui brûlait, je ne sais pas, mais on peut dire que c'est la vérité aussi. Pour une ville comme Saint-Étienne, il y a encore des milliers de personnes qui ont vécu des moments difficiles, une expérience personnelle très importante pour l'humanité, pour nous qui venons après eux. Et donc la mémoire orale, c'est de permettre de recueillir le maximum de témoignages avec tous les problèmes de conservation et de... Enfin, mon collègue historien et géographe donnera peut-être préciser un peu les choses.
Oui.
Et en fait, est-ce qu'il marche là, mon micro, ou pas ?
Hop, donc je prends l'autre micro qui marche vachement mieux. En fait, si moi j'ai des archives chez moi, des choses à vous donner, ou si je viens vous raconter mon histoire, qu'est-ce qui va en être fait après ?
Alors le Grémaux, c'est une petite équipe, hein, ça démarre, ça pourrait se transformer en autre chose, mais le Grémaux, ça n'a pas vocation, à pas les moyens de garder, même si le problème se posait, on garderait des archives, on garderait des... Donc si quelqu'un a, pour le moment, ce qu'on peut, on peut dire deux choses. La première, c'est que c'est souhaitable que des organisations qui sont issues du mouvement ouvrier ou qui ont des liens avec eux, que ces organisations créent des dépôts d'archives et essayent de conserver la mémoire de leur parti, de leur syndicat ou de leur amical laïque ou de leur association. C'est bien, il y a des risques parce que les histoires d'institutions, ça vient, mais enfin des organisations qui existent, mais ça permet au moins de recueillir une mémoire particulière d'un des éléments de la mémoire collective plus générale. Par contre, nous, on conseille, c'est pour ça qu'une des fondatrices du Grémaux, c'est Corinne Porte, c'est la directrice des archives municipales, c'est que les archives publiques sont un endroit relativement plus sécurisé. Bon, s'il y a des bombardements, évidemment, mais c'est un endroit où les archives peuvent rester. Donc, il y a des règles très strictes qui permettent à chacun de déposer ses archives sans crainte quant à la consultation ou quand on risque de faire connaître des choses qu'on n'aurait pas envie que les autres connaissent. Voilà.
Il est bien vrai qu'il y a de nombreuses institutions qui se donnent le droit de conserver les archives. Et nous, dans notre travail sur cette grève de 1948, eh bien, nous découvrons au fur et à mesure la richesse, mais l'atomisation aussi de ces lieux. Donc je peux vous citer le musée Goriot, le musée d'art et d'industrie, le château des Bruno à Firminy, les Amis du Vieux Saint-Étienne, l'Institut d'histoire sociale, les syndicats à l'intérieur des bourses du travail, qui eux aussi ont un certain nombre de documents. Point de suspension, je ne rentre pas dans les détails.
Oui, je voulais ajouter sur ce point-là, simplement d'un point de vue pratique. Donc, au niveau du Grémos, bon, on a un site internet, mais qui n'est pas très à jour, mais qui recense notamment tous les centres de ressources où on peut trouver des archives en lien donc, avec les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Donc, le Grémos a vocation, donc, d'un point de vue pratique, à recenser, essayer de recenser tous les lieux où sont stockées des archives, mais aussi, bon, on est en train de mettre en place une base de données pour recenser tous les travaux de recherche qui sont consacrés au monde ouvrier stéphanois.
Et dans l'idée, cette base de données serait accessible à tout le monde ?
A priori, oui, puisque on peut avoir des chercheurs ou même des chercheurs amateurs qui peuvent être intéressés donc partout en France. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre transparente toute l'information disponible sur les recherches en cours sur le monde ouvrier stéphanois.
Et moi, j'avais une autre question, par exemple, dans la plaquette de présentation des archives, enfin du travail d'archives qui a été fait donc entre le Grémos et les archives municipales, il y a cette question-là de l'importance des fonds d'archives privés en fait. Et pourquoi ces archives privées ont tant d'importance pour le Grémos ?
Enfin, ils ont autant d'importance, ils n'ont pas plus, pas moins, mais autant la vie des organisations, des mouvements, les événements, autant c'est déterminant dans l'histoire ouvrière d'une ville comme Saint-Étienne. Mais ces événements, comme on en parlera tout à l'heure sur les grèves de 48, ces événements s'inscrivent sur un fond qui est encore plus riche, qui est tout simplement la vie des gens, la vie ouvrière, c'est pas simplement les militants, c'était aussi les femmes de militants, hein, qui étaient souvent militantes, mais pas toujours. Et puis, c'est des événements qui ont été vécus autrement. Donc les archives privées, la vie de chacun est complètement unique. Hein. Donc quelqu'un, c'est pour ça qu'on a envie de faire raconter à sa grand-mère des choses, parce qu'on a l'impression qu'elle raconte pas seulement une période passée, mais sa propre vie. Et donc, chaque vie étant singulière, garder la mémoire d'une vie, c'est enrichir sans arrêt la connaissance des réalités humaines. Et donc, toute archive privée, c'est-à-dire, la correspondance d'un mari qui était prisonnier, on sait bien que c'est compliqué, mais voilà, toute correspondance dit des choses précieuses, des choses toutes simples qu'on a oubliées, ce que c'est que d'avoir faim. Comme les gens qui n'avaient pas de revenus, comment ils pouvaient avoir très faim, les ouvriers de Saint-Étienne, en 46, 47, après la guerre, justement au moment des grèves, où des gens avaient faim, mais faim au point d'avoir envie de voler. Non, j'ai vu une émission récente où il y a une dame très digne qui dit comment elle a failli voler un beefsteak, elle ne l'a pas fait. Enfin, on peut regretter, mais bon, elle ne l'a pas fait, ce qui est sûr. Mais elle est passée 4 fois devant tellement elle avait faim. Ça heurtait toutes ses convictions. Voilà, donc les archives permettent de saisir ça.
Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets des recherches que vous faites ou qui sont liées de près ou de loin au Grémos, un peu pour qu'on ait une idée de toutes les activités liées au Grémos ?
Bon, on va en parler un peu tout à l'heure sur les grèves. Donc on est un organisme récent. Donc les grèves de 48, on va en parler tout à l'heure. Ça a été un moment très fort dans la vie du Grémos. Alors ce qu'on peut signaler, c'est une équipe qui s'est constituée d'étudiants de sociologie, d'histoire et de géographie, mais surtout de sociologie, qui s'est lancée effectivement, qui a eu une subvention de la DRAC et qui a pu mener, alors dans des conditions difficiles, puisque comme vous le savez tous, l'année dernière, il y a eu un mouvement de grève et de blocage des facs pendant une très longue période. Donc ça a perturbé un peu notre travail, mais qui vise à recueillir les deux grandes activités, c'est celle du site, donc plutôt du côté de la coordination dont Frédéric a parlé tout à l'heure. Et l'autre activité en dehors des événements comme les grèves de 48, ça a été effectivement de recueillir des témoignages très modestement, donc avec des questions méthodologiques dont on discutera sans doute, ce serait bien d'en discuter, parce que ça engage qu'est-ce que c'est que travailler sur le mouvement ouvrier. Donc c'est intéressant de voir comment la sociologie n'est pas une science surplombante qui prétend expliquer la vie des autres, mais qu'elle est associée directement à la vie des autres.
Oui, au niveau des activités du Grémos, donc il y a, comme Daniel l'a dit, donc la collecte des témoignages. Le site n'est pas très à jour. Je vais quand même vous donner le lien vers le site. Donc www.modys.fr/Grémos, GREMOS. Donc le Modys, c'est le laboratoire de sociologie qui héberge un petit peu dans ses locaux le Grémos, mais le Grémos est à la conjonction donc du Modys et de l'IURP, donc l'Institut des historiens dont on parlait tout à l'heure. Donc le site n'est pas très à jour lié aux difficultés qu'on a connues sur l'université, comme Daniel le disait. Et par ailleurs, donc dans les activités du Grémos, bah il y a donc cette émission de radio qui va être peut-être le fruit d'une longue, le début pardon d'une longue série. Donc on aimerait bien continuer à faire connaître le Grémos pour sensibiliser les gens à notre action, et puis donc arriver à sensibiliser les gens à venir nous confier des témoignages ou
on attend des cartons. Hein. C'est-à-dire les gens qui nous écoutent, là, si vous pensez dans votre grenier, il y a un carton qui dort, allez voir et éventuellement vous pouvez contacter par Radio Dio.
Oui, et puis et tous les chercheurs aussi qui nous écoutent, venez nous voir aussi pour qu'on fasse plein d'autres projets ensemble. Et au niveau des activités, il y a eu donc les grèves autour des grèves de mineurs de 48, donc l'organisation le 22 octobre 2008 d'un colloque pluridisciplinaire, donc qui a eu lieu à la Bourse du Travail, lieu emblématique du monde ouvrier stéphanois. Et donc, mais ça, bon, on y reviendra plus en détail avec Maurice Bédouin, je pense, tout à l'heure.
Ouais, peut-être avant de passer justement à cette grève de 48, il y a aussi, à ma connaissance, pas mal d'assos, alors des petites assos, des centres sociaux, des choses comme ça qui font un peu ce genre de travail de collecte de mémoire ou... c'est un peu, on dit des fois même que c'est la mode mémorielle, donc ces personnes aussi pourraient peut-être vous contacter.
Là, j'en profite, alors j'espère, ça remonte à, j'ai rencontré ce problème il y a quelques années, mais j'en profite pour dire, par exemple, les amicales laïques, beaucoup d'amicales laïques avaient encore leurs archives dans les locaux des amicales laïques, et beaucoup d'archives se perdent, c'est-à-dire que ça, c'est arrivé pour la Bourse du Travail. Donc c'est plutôt les archives, là, c'est pas les archives privées, c'est les archives d'organisation, mais c'est des archives précieuses, c'est-à-dire que les comptes rendus, la vie des amicales laïques, sur Saint-Étienne, là, je sais pas combien il y avait d'amicales laïques, mais c'est un mouvement aussi important que le mouvement syndical. Enfin bon, ça rentre dans cette civilisation engloutie dont je parlais tout à l'heure.
Moi j'avais juste peut-être une dernière question avant qu'on passe à un morceau de musique. C'était par rapport à ce qu'elle a parlé, où on peut avoir l'impression des moments que c'est un peu la mode en fait de récolter les mémoires, etc. Et en quoi le Grémos s'inscrit dans ce processus mémoriel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou au contraire s'en distingue?
C'est vrai qu'au Grémos, on n'a pas tous sur les mêmes positions, mais on est quelques-uns à être assez critiques sur une espèce de politique de patrimonialisation qui, en fait, on peut tuer en conservant. Quoi. Enfin, voilà. Donc, le patrimoine, c'est un truc à la mode qui est et en fait, on se dit, non, on n'est pas, je vais pas critiquer le patrimoine, hein, c'est bien de ça permet de sauver des choses et surtout c'est une référence à des choses qui ont été importantes, mais on pense effectivement que la mémoire ouvrière a une force et une autonomie telle que toute entreprise de patrimonialisation risque d'embaumer ce qui est si vivant pour les gens vivants d'aujourd'hui, quoi.
Donc peut-être il vaut mieux inciter grand-mère à raconter sa vie tous les jours plutôt que d'aller, faire une expo à la mairie.
Il faut qu'elle fasse les deux, voilà.
D'accord. Donc peut-être on va pouvoir enchaîner avec cette fameuse grève des mineurs de 1948. Et je crois que Fred, tu avais une chanson à présenter pour introduire tout ça.
Oui, donc pour illustrer la grève des mineurs 1948, on a récupéré un enregistrement donc de la chorale La Barricade, chorale stéphanoise de chant révolutionnaire, qui a été initiée au départ pour chanter dans les manifestations, un peu comme ça se faisait à l'époque. Puis à l'heure des sonos, ça s'est un petit peu perdu, donc c'est des gens qui ont envie de faire revivre un peu le chant spontané dans les manifestations. Donc là, la chanson, c'est « Salut à vous, mineurs de France », une chanson donc écrite par Gabriel Maritain en novembre 1948 à la prison de Bellevue, où il était enfermé suite à la répression donc des grèves de mineurs de 48. Donc répression qui avait été organisée par Jules Mocq, qui est cité dans la chanson, ministre de l'Intérieur socialiste, grand réorganisateur en 1948 des compagnies républicaines de sécurité, les CRS. Mais tout ça, Maurice Bédouin va nous en parler après la chanson.
Suprême espérance, furent vités les ignobles bourreaux.
Ok, bah voilà, c'était donc la chanson des mineurs de France chantée par la Barricade, chorale stéphanoise. Et donc, bah, cette chanson, elle parle de la grève des mineurs de 48, dont on a déjà parlé plusieurs fois à Radio Dio, mais dont Maurice Bédouin va nous parler encore d'une autre manière et nous raconter encore plein de choses passionnantes. Donc,
oui,
voilà.
Chanson emblématique, s'il en est une, pour les Stéphanois, mais surtout pour les habitants de la Ricamarie. Alors, la grève de 1948, eh bien, je crois que pour les historiens, pour les sociologues, dans le bassin de la Loire, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, était resté un peu à l'état de pointillé. Bien sûr que la grève a existé, mais elle n'a jamais vraiment été étudiée. Et pour vous dire une curiosité, la thèse de Monique Luirard, hein, qui rentre parfaitement dans les limites chronologiques, enfin, de l'après-guerre, hein, ne consacre que 3 pages à la présentation, je ne vais pas dire à l'étude, hein, à la présentation de cette grève de 1948, alors qu'elle avait, semble-t-il, des sources orales de premier niveau.
C'est qui Monique Luirard ?
Monique Luirard était professeure d'histoire à l'université de Saint-Étienne, et elle était celle qui dirigeait la recherche de l'époque. Voilà, alors pour parler de notre souci, ça a été, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'occasion de l'anniversaire, du 60e anniversaire de la fusillade de Campfort, fusillade qui avait été particulièrement douloureuse, puisqu'elle a abouti à la mort d'un homme, d'un mineur, Antonin Barbier, et à une trentaine de blessés. Nous avions, quand je dis nous, c'est-à-dire que nous étions plusieurs, hein, à souhaiter organiser cet anniversaire à la Bourse du Travail, le 22 octobre, qui a donné lieu à un colloque d'une journée auquel un certain nombre de chercheurs sont intervenus, et puis quelques témoins. Et parallèlement, les archives municipales de Saint-Étienne, qui sont détenteurs d'un fonds d'archives sur plaques de verre, des photos de Léon Le Ponce. Léon Le Ponce était photographe aux Patriotes et il a particulièrement photographié la grève de 1948. Parmi ce fonds constitué, les archives ont choisi une vingtaine de photos qui avaient été agrandies et qui avaient été proposées en grand agrandissement dans le hall de la Bourse du Travail. Et c'était une manière de rendre aux Stéphanois la propriété de leur passé et de leur dire oui, ça a vraiment existé. Et je me souviens combien ça avait soulevé l'intérêt et les commentaires à l'époque. Voilà. Alors, à l'issue de cette journée, on s'est dit on ne va pas laisser l'histoire comme ça, là, hein, il faut qu'on la poursuive. Et il s'est mis en place un petit groupe de chercheurs, alors avec la préoccupation de mettre au premier plan les photos de Léon Le Ponce. L'objet de notre travail est un objet qui est basé sur les photos de Léon Le Ponce. Combien y en a-t-il ? Bon, 83 primitivement. Ensuite, nous en avons découvert plusieurs nouvelles. On va dire qu'aujourd'hui, bon, on a plutôt tendance à dire que nous sommes sur la base de 114 photos sur la grève. Une petite équipe s'est constituée autour de Jean-Michel Stenner, donc historien, de Jean-Claude Monneret, qui est lui plus spécialiste de l'analyse des images, de Corinne Porte, dont on a déjà parlé, et puis de moi-même, qui suis historien géographe.
Et donc vous avez en projet de sortir un livre à partir de vos travaux ?
Voilà, on a une intention très prochaine, hein, puisque le livre est terminé. À la fois de resituer ces photos dans le contexte, à la fois de les analyser, et à la fois de voir comment Léon Le Ponce s'est situé par rapport à l'événement, comme photographe, comme professionnel, comme militant, point d'interrogation, parce que nous sommes vraiment certain qu'il n'a pas été un vrai militant, comme témoin.
Vous dites que donc les grèves de 1948 ont été peu traitées au niveau des recherches. Mais il me semble que ces grèves ont marqué Saint-Étienne et les gens qui l'ont vécu. Est-ce que vous pouvez juste dire en quelques mots pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est un peu passé pendant ces grèves et pourquoi elles ont tant marqué les mémoires ?
Il faut se resituer dans l'après-guerre. Nous sommes dans une période où on est encore avec des tickets pour aller avoir de la nourriture chez les épiciers. Nous sommes dans une période de grande frustration, dans une période où le mot d'ordre politique et syndical a été celui de sauver l'économie française avec une accélération de la production charbonnière. Et les ouvriers ont vraiment joué le jeu, les syndicats ont joué le jeu. Et nous sommes aussi dans un contexte de guerre froide, avec un pays qui est partagé. Alors, Frédéric, tout à l'heure, parlait de Jules Mock. Eh bien, un pays qui est partagé entre ceux que l'on juge comme étant des agents du Cominform, les communistes, et ceux qui sont les vrais Français. Et dans le camp des vrais Français, on trouve évidemment Jules Mock, qui va exercer la répression contre toute forme de protestation. Alors, votre question, pourquoi cette période est extrêmement importante, je crois qu'on comprend beaucoup mieux les enjeux de l'après-guerre à travers la grève de 1948. Et elle n'a pas été la seule grève. Nous sommes dans une période à partir de 1947 où les grèves sont, je ne vais pas dire quotidiennes, mais quasiment. Chaque corporation succède à une autre corporation pour lancer sa grève. Et chacun voudrait que les grèves soient unitaires, et personne n'arrive à une grève unitaire. Mais celle-ci, des mineurs, a quand même soulevé l'intérêt de beaucoup. Daniel.
Oui, moi j'avais une question sur cette grève, parce que tu soulignes bien le fait que les syndicats ont, donc les gens mangeaient pas trop à leur faim, et les syndicats ont joué sur la « il faut produire, retroussons les manches », enfin, je sais plus ce que, voilà. Et il y a un basculement, donc la question que je me pose, mais c'est lié à sur une période plus longue de l'histoire ouvrière, est-ce que les mineurs ont quand même pas eu le sentiment, et plus généralement les syndicats de mineurs, de la CGT et plus généralement, d'être un peu instrumentalisé, puisque pendant une période, il y a la stratégie du Parti communiste qui consiste à viser éventuellement, à identifier la France et la production. Et dès le moment avec le plan Marshall, etc., dès le moment où il y a rupture, le Parti communiste... Alors on comprend bien que les ouvriers en avaient gros sur le cœur, sans doute, et qu'ils avaient envie de se mettre en grève... Mais ils se heurtaient à des organisations qui non seulement leur disaient de ne pas faire grève, mais si quelqu'un voulait se battre, les dénoncer comme des ennemis de la France ou je ne sais pas quoi. Et puis brusquement, en deux mois, en quelques semaines, ça bascule.
Bien sûr, bien sûr.
Donc comment les mineurs... Voilà, ça c'est les grands cadavres dans les placards de l'histoire ouvrière de Saint-Étienne. Enfin, et d'ailleurs, pardon.
Non, mais bien sûr, on est au cœur d'un thème fondamental. On assiste à un raidissement de la situation à partir de la mi-septembre. Alors, les décrets Lacoste, là, qui ont été des décrets qui ont menacé, enfin qui ont véritablement remis en cause le statut du mineur, ont été le détonateur et utilisés comme tel pour justifier la grève. Et il n'a pas été très difficile pour mobiliser le monde ouvrier autour de la suppression des décrets Lacoste. Mais en vérité, il y a bien en soubassement des éléments que nous avons à travailler et qui sont beaucoup moins visibles et qui sont beaucoup plus opérants dans l'explication de la grève. Et puis, je balancerai du côté de la fin de la grève, parce que la grève a finalement été, entre guillemets, perdue. Par les mineurs, hein, ils n'ont absolument rien.
Et ça aussi, c'est un moment qui a été peu facile à gérer par les familles, par les pères qui sont entrés à la maison et à qui on demandait alors ça a servi à quoi. Et puis, difficile à gérer par les dirigeants syndicaux et avec un certain nombre de gens qui ont rendu les cartes, les difficultés à trouver de nouveaux délégués par la suite, etc. Et puis, y compris à l'intérieur du Parti communiste et à l'intérieur de la CGT, des mises au placard.
C'est-à-dire ? C'est-à-dire ?
À des gens que, qui ont été dénoncés comme n'ayant pas été suffisamment convaincants ou en réussite sur le mouvement.
Ok, donc vous êtes allé recueillir, dans le cadre de vos recherches, vous êtes allé recueillir un peu les histoires des gens qui avaient participé. Et là, vous nous avez amené des extraits de ces discussions.
Voilà, alors je précise bien qu'on ne peut pas écrire l'histoire par des témoignages, mais on écrit une histoire par le croisement de multiples sources. Et là, bah, je crois que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de chance, parce que première source, les photos de Léon Le Ponce. Deuxième source, les articles de presse, notamment Le Patriote. Mais notre ambition, c'est de travailler sur l'ensemble de la presse locale, régionale et nationale. Utiliser alors quelque chose de tout à fait étonnant, les sources de la préfectorale. Les archives préfectorales ont été ouvertes, il a fallu demander une dérogation, et elles permettent de retrouver des informations qu'on ne pouvait pas soupçonner, à savoir des minutes des renseignements généraux qui ont suivi le conflit. Et puis, également, comme source, les témoignages, comme vous nous le disiez, qui permettent de retrouver des chaînons manquants. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis de retrouver de la chair et du cœur, qu'on ne retrouve pas par ailleurs. Et alors, oui.
Vous nous avez amené donc un extrait qu'on pourrait s'écouter.
Oui. Alors, ce premier extrait, si vous voulez, je vous le resitue pour que nos éditeurs comprennent bien. Lorsque nous rencontrons les témoins, nous venons en premier avec les photos, qui sont des photos en A4, qui sont superbes, et nous leur demandons de réagir. Et ça réserve de très belles surprises. Alors, je vous dis, là, cet entretien que vous allez entendre, il s'est fait avec Madame Victoria Flatet, qui est née en 1915, qui avait donc 23 ans en 1948. Et je lui ai montré la photo de la libération de Gabriel Maritain. Gabriel Maritain était délégué mineur à la Ricamari. Il avait été arrêté le 17 décembre 1948. Il avait écopé 8 mois de prison. Et voilà que quand on a su qu'il allait sortir de la prison de Bellevue, ben, tous ses amis sont venus l'attendre. Et devant cette photo, il ne s'est pas intéressé à l'esthétique de la photo. Hein. Pour nos auditeurs, je vais dire, ben, Le Ponce, le photographe, s'est installé sur le trottoir de la Grand Rue. Et il a installé les gens face à lui en demi-cercle. Et chacun a regardé l'objectif comme pour poser et pour donner une image éternelle de l'événement extrêmement important. Et Madame Flatet s'est attachée à dire qui sont les personnages que l'on voit.
Là, à côté. Parce qu'il
y a quelqu'un qui a marqué.
La toinette.
Ah, ben si, ils ont bien marqué Claudette Lorrain.
Oui.
Ah, parce que sur le journal, c'était marqué sa femme à côté. Sa femme. Et puis j'ai dit, c'est pas sa femme, c'est la Zette Lorrain.
Oui, alors il n'y a pas l'épouse de Gabriel
Maritain. Non, elle n'y est pas là.
Elle n'y était pas là.
Voilà Madame Bisaillon.
Madame Bisaillon.
Alors, qui est-ce qui avait acheté les fleurs et qui les a données à Gabriel Maritain? C'est peut-être trop difficile de vous en souvenir.
Je ne sais pas, parce que là, comme il y avait beaucoup de femmes de l'Union des femmes françaises, c'était peut-être elle qui avait acheté, c'était peut-être vous qui aviez acheté les fleurs, je ne sais pas.
La photo.
Où tu vois,
là.
Là, je ne sais pas, c'est peut-être...
Là. Là, là, là.
le jour
Joe Gerdos,
Marius Grébet, oui. Là, vous avez bien retrouvé les noms.
Ah oui, oui.
Attends. Alors.
Oui. Alors, la Z, Gabriel.
Il y a eu trois mineurs de libérés ensemble, donc Gabriel, Maritain.
Oui.
Là, c'est Rouchon, Jean Rouchon, et celui-ci.
Celui-là,
celui du milieu, là, qui a une cigarette, là. Ouais. C'est celui-ci qui a été libéré.
Les trois.
Voilà. Et puis, autre morceau extraordinaire de la part de Madame Victoria Flatey, c'est la manière dont elle a vécu ce moment-là. Alors, nous sommes le 5 mai 1949. Elle se trouve dans la Grand Rue, le long de la prison de Bellevue. Et voilà comment elle revit l'événement.
La façon dont vous parlez. Alors, Madame Victoria Flatey, vous étiez là au moment de la libération
de Gabriel Maritain.
Avec qui étiez-vous?
On était la Toinette Bisaillon.
Madame Bisaillon.
Alors, ça s'écrit
B-I-Z-A-I-2-L-O-N.
Alors, Madame Bisaillon était qui?
Elle était à l'Union des femmes françaises.
À l'Union des femmes françaises, puisque c'était
une femme de mineur.
C'était l'Union des femmes françaises, là, à l'époque. Hein.
Et alors, on vous avait plutôt dit que la libération de Maritain allait se faire par le grand portail.
Voilà.
Oui. C'est-à-dire, elle l'attendait par le grand
portail. Nous, on l'attendait par le grand portail, en bas. Là, hein. Et puis, on nous dit non, il ne sortira pas de là. C'est plus haut. Qui va être libéré plus haut. Alors, je vois cette prison, là, tout. On nous dit, montez plus haut. Alors, on monte plus haut. Il y a une barrière qui s'ouvre, là, une petite porte qui s'ouvre, et notre billet qui sort de là. Oh là là. Je le vois, amaigri, bien sûr. Hein. Mais content, lui, il pleurait aussi. On pleurait tous. Ça, c'était un moment émouvant. Ça a été un moment vraiment émouvant. Et puis alors, comme ça s'était dit, à ce moment-là, on n'était pas très nombreuses, mais après, ça s'était dit, alors ça venait de tous les côtés, on voyait affluer des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, ils venaient tous, oh, mais il y a Biel qui sort de prison. Et nous voilà partis jusqu'à la Bourse du Travail, comme ça, mais alors notre défilé, de là, de cette porte de prison, jusqu'à la Bourse du Travail, ça c'était, il y avait du monde, hein. Je vous dis qu'il y avait du monde quand on est arrivé à la Bourse du Travail. Les gens, il y en avait de tous les côtés, ça arrivait, hein.
Oui, voilà, c'est la photo qui était partout.
Voilà. Oui.
Alors, ce qu'il y a, c'est... Bougez pas, pardon. Oui.
Alors, madame...
Jean Rouchon, ça, c'est Maritain. Vas-y.
Voilà, donc, c'était donc Victoria Flatey qui raconte la sortie de Maritain de prison pendant la grève des mineurs de 48. Alors, j'aurais quand même deux petites questions. Moi, elle parle de l'Union des femmes françaises. Qu'est-ce que c'était?
Alors, c'était une organisation qui était une organisation au sein du Parti communiste qui était destinée à permettre aux femmes d'avoir un regard politique sur la vie et d'avoir une action alors, qui est souvent de type de solidarité. Par exemple, quand une femme de mineur qui était dans le besoin, qui avait un bébé, on lui offrait des chaussons.
D'accord. Et une question qui est plutôt... on dit que cette prison là dont elle parle, de Bellevue, c'est ce qui est devenu Centre 2 à Saint-Étienne,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça, oui.
Ok, d'accord. Bon, bah, on va devoir passer à une petite question.
L'université est devenue... c'était une caserne. La caserne a donné l'université et la prison.
C'est ça.
À l'urbanisme. Donc on va écouter une petite chanson, c'est ça, je sais pas ce que c'est, donc je vais vous laisser la présenter.
Donc c'est issu de la compile de l'Italie 77 et c'est Balata pour par Pinelli qui est un anarchiste italien.
Vas-y. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apre un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. Signor questore, io gliel'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia, amor, libertà. Poche storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore del vile attentato, e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo misfatto, tra i padroni bisogna cercar. Siamo attenti, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra, quattro piani son duri da far. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. L'hanno ucciso perché era un compagno, non importa se era innocente. Era anarchico e questo ci basta, disse guida il feroce questor. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nere bandiere. Quel giorno l'abbiamo giurato.
Et voilà, c'était une chanson à propos de Pinelli, qui était un cheminot italien qui a participé aux grandes grèves en Italie et qui a été tué par la police dans le commissariat. Et lui, il n'est pas sorti. Voilà, c'était un hommage. Donc on va enchaîner, on retourne sur les grèves de 48 en Saint-Étienne.
Voilà, donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure un peu sur ces grèves ?
Alors, à propos des entretiens, je crois qu'il est bon de signaler que nous avons le souci d'en établir la plus grande variété possible, de façon à avoir des témoignages sur les lieux et sur les événements qui se sont déroulés, mais aussi en ayant des entrées sur les points de vue des gens. Par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un avocat de mineur de 1948. J'ai eu la chance de rencontrer un des militaires. Et j'ai cru jusqu'au bout que c'était un des militaires qui était intervenu à Campfort. Et puis non, pas de chance, il était intervenu à Monceau. Mais c'est très précieux parce que ça nous permet de rentrer dans cette manière de penser la grève qui est d'une manière tout à fait différente. Il y a les ingénieurs, évidemment, il y a les ouvriers de jour et les ouvriers de fond, il y a les femmes, il y a les filles, et puis alors il y a les immigrés, polonais, grecs, albanais, et je vais vous le dire, je souhaite vraiment avoir un témoignage, plusieurs témoignages de mineurs nord-africains. Et là, je n'arrive pas parce qu'en principe, ils sont repartis chez eux, ou même parfois, ils sont déjà morts.
Donc c'est un travail, dans tous les cas, qui continue. Même si un livre va sortir, vous n'allez pas arrêter de recueillir ces témoignages et ces pièces historiques.
Oui, parce que ce qui va sortir, c'est un tome 1 qui est un travail en relation directe avec le commentaire des photos.
D'accord.
Et ce que nous avons en tête, c'est de sortir un deuxième tome qui sera un travail alors, plus exhaustif, plus historique, sur la grève de 1948, avec ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, et tout ce qui l'entoure.
Mm. Ouais.
Ok, donc à suivre. On va marcher tout doucement vers la fin de cette émission consacrée au Grémos. Donc, je ne sais pas, Fred, Daniel, si vous voulez conclure, rappeler en trois mots ce qu'est le Grémos ou,
Oui, donc voilà, avec Maurice Bédouin, donc on a vu un des petits cercles du Grémos. Donc, et puis c'est intéressant de voir donc, que ce colloque du 22 octobre 2008 a débouché sur une émulation au niveau recherche, sur des rencontres, et puis un livre qui devrait voir le jour. Donc c'est bien la vocation du Grémos comme ça d'inciter à des rencontres et puis à bâtir des recherches ensemble. Puis donc on rappelle qu'on a vocation à collecter les témoignages oraux et puis à ce que les gens sortent les archives des placards. Donc contacter le Grémos, groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, situé à l'Université de Saint-Étienne, hébergé au labo Modis. Voilà. Donc vous pouvez nous contacter par écrit. Il y a le site internet, on n'a pas d'adresse mail, ça devrait venir très bientôt. Voilà.
Alors, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, non, Maurice?
Ah oui, pour ceux qui tiennent leur agenda, je vais signaler.
À vos agendas.
L'expo des archives municipales de Saint-Étienne a beaucoup voyagé et elle va être proposée à la Ricamari, à la médiathèque de la Ricamari, du 6 au 24 avril. Et elle sera accompagnée d'une conférence le vendredi 9 à 18h30. Toujours à la médiathèque de la Ricamari.
Donc, au niveau de l'agenda, donc activité du Grémos, donc on va avoir une intervention de Daniel Colson à l'université Jean Monnet, site Tréfilery, le mercredi 7 avril à 18h30, amphi E01. Donc Daniel qui va nous parler du mouvement ouvrier stéphanois à la veille du premier conflit mondial, donc à la veille de la guerre de 14-18. Donc c'est dans le cadre de l'université solidaire, une université alternative qui a été initiée donc sur l'université pendant le mouvement de grève du printemps passé, printemps 2009. Et cette université perdure et il y a des interventions tous les mercredis soirs. Voilà.
Et vous n'avez pas d'autres activités du Grémos ou liées au Grémos à présenter ?
Au mois de mai, on aura donc une séance au Cinéma Le France qui est faite en association avec le Grémos. Mais là, c'est pas tout à fait fixé. Donc, on tiendra au courant Radio Dio pour pouvoir diffuser cette information plus tard.
Alors, puisqu'on a le temps et puisqu'on a parlé de grève et qu'on a évoqué vite fait les grèves à la fac de l'an dernier, peut-être on pourrait juste parler vite fait de ce qui va se passer le 30 mars à Paris.
On a un peu des problèmes de micro, alors du coup ça fait peut-être un peu des blancs au milieu. Change de micro. Il y a donc eu des conseils de discipline l'année passée par rapport au mouvement de grève. Donc 9 personnes sont passées en conseil de discipline en septembre de cette année. Il y a eu des sanctions qui pour les facs et pour un mouvement de grève sont assez lourdes. Ça va du blâme à 2 ans d'exclusion avec sursis. Les étudiants et étudiantes concernés ont décidé de faire appel et ont donc été convoqués il y a maintenant 2 mois au CNESER, qui est le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et là, le 30 mars, il y a la deuxième phase, donc qui est le jugement. Donc les choses se terminent. Il y a un rassemblement et un pique-nique solidaire donc le 30 mars à Paris. Et donc ça, c'est à partir de 9h, puisqu'en fait, les étudiants sont convoqués à partir de 9h et la séance est publique. Donc faites passer à vos contacts parisiens ou si vous avez envie d'aller à Paris, ça peut être bien aussi. Donc le 30 mars au CNESER, qui doit être rue Descartes. À Paris. L'arrondissement, j'en sais rien. Je ne connais pas bien Paris. Pas du tout même.
Voilà, donc si personne n'a rien à ajouter, moi je vais en profiter pour élargir l'agenda à des choses qui n'ont a priori pas grand-chose à voir avec la fac ou le Grémos. C'est ce soir, il y a un film proposé par Coxaplana à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Donc ce soir, jeudi 25 à 20h. Alors, j'ai pas très bien compris parce que j'ai vu 2 programmes différents. l'un annonce l'épouvantail de Jerry Schatzberg. Et sinon, moi, il m'avait semblé comprendre que c'était un film qui s'appelait La véritable vie de Sherlock Holmes. Alors, je ne sais pas du tout, je suis une mauvaise journaliste. En tout cas, les films à la Cinémathèque, souvent, c'est bien et c'est toujours gratuit et intéressant. Et en plus, Coxaplana, c'est eux, c'est l'association qui projette des films au grand luxe. C'est 11 rue de Les Galeries vers Bellevue. Et ce week-end, donc vendredi 26 et samedi 27 mars, pour 3 euros chaque soir à partir de 21h30, ils proposent une programmation avec plein de films composés. Donc, et la programmation est composée de films rares et historiques. Donc voilà. En provenance des archives de Jack Stevenson. Donc on est toujours dans les archives précieuses et importantes. Et voilà, y a les films, c'est Maria Montez, Eclipse of the Sun Virgin, Catwoman, I Changed My Sex, Babalu, Untitled Hawaiian Sundi et Sweet Hawaiian Dreams. Je ne connais aucun de ces films.
Et sinon, il y a le film sur Sherlock Holmes, il a été annulé. Voilà.
Donc c'est quoi alors? Et donc il y a autre chose, il y a l'épouvantail.
Bah, ce que t'avais, il y a ce que t'avais annoncé au départ.
L'épouvantail alors.
C'est d'accord, non, c'est l'épouvantail qui a été annulé et c'est Sherlock Holmes qui remplace.
Ah voilà, c'est de l'info en temps réel. Et pour finir aussi, le numéro zéro organise avec les créations du crâne, le collectif LFP et la CNT. 2 jours en soutien aux prisonniers d'Action Directe, voilà, qui sont en prison depuis 1987 et qui aimeraient bien sortir un jour. Donc ça, c'est jeudi 1er avril et vendredi 2 avril. Donc le jeudi 1er, c'est au Misanthrope, c'est un bar rue Antoine Durafour au-dessus de la fac, avec un film interview sur le parcours de Joël Aubron, qui était membre d'Action Directe, et à manger, et des poèmes et un peu de hip-hop. Voilà, et le lendemain, le 2 avril, un concert de punk rock au squat Las Ferro en soutien aux prisonniers d'Action Directe. Le 2, donc 1er et 2 avril. Voilà, donc on va se quitter. On est presque à l'heure pour une fois. Donc je rappelle que c'était l'émission numéro 0 avec le Grémos. On en fera d'autres, je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Non, eh bien voilà. Si vous avez quelque chose à raconter sur les Mémoire des mondes ouvriers stéphanois, n'hésitez pas à contacter le Grémos, ou si vous avez des archives, c'est ça que tu voulais dire?
Oui, voilà, mais comme ça a été bien dit, donc voilà.
Voilà. Et bah, à bientôt. Et nous, cette émission sera rediffusée aujourd'hui à 17h, et le numéro 0, la prochaine émission, c'est dans 2 semaines, jeudi à midi.
Juste rajouter quand même que le 10 avril à Lyon, il va y avoir une manif antifasciste suite aux nombreuses attaques qu'il y a eu à Lyon, notamment sur des militants de la CNT, et puis sur des squats, et puis sur des manifs notamment pour l'IVG, etc. Donc voilà, c'est le 10 avril à Lyon, ça sera important qu'il y ait plein de monde. Voilà, on enchaîne avec le chant des casseurs, c'est parti. Ouais,
sont ceux qui voyagent dans la soute à bagages, exclus du paysage, coincés dans les barrages, qui connaît les étages, blatte et cafard pour voisinage, et déblatère encore sous l'éclairage d'un gyrophare, qui a la rage, qui lui perfore le bide, qui dont le sang a connu guerre et génocide, qui nous parle de droits de l'homme et s'érige en guide. Encore cet Occident qui s'oxyde, vite, on nous défère, ferme ta gueule et encaisse. Qui connaît les fers depuis l'Afrique, les Antilles ou la Thèse? J'en veux à la terre entière, ou au moins les trois quarts. J'ai pour cible ceux qui, comme au Paris-Dakar, ont pris nos terres pour un terrain de jeu. Quand ces sales bâtards ne viennent pas pour y foutre le feu, ils se tapent la route du Rhum, s'éclatent dans les dom-toms, et reviennent en grande forme, t'éclater au gomme-cogne. Que de rancœur et de noirceur pour âme-sœur. Voilà le chant des casseurs. J'ai repris le fouet du dresseur, à mon tour agresseur. Ne soyons plus chassés mes chasseurs. Que de rancœur et de noirceur pour âme-sœur. Voilà le chant des casseurs. J'ai repris le fouet du dresseur, à mon tour agresseur. Ne soyons plus chassés, mes chasseurs. Si de la violence, mes chromosomes en ont l'arôme, c'est que leurs psaumes sont couleur chrome. Nous, c'est la douleur qui nous a grandi. Croire que l'on ne se nourrit que de drames et d'incendies. Puis si vendredi avait pu tes Robinson, on servirait du colon comme d'un paillasson. Façon d'origine non européenne, de la haine dans l'ADN. C'est pour ceux qui se souviennent des tortures à la GGN. Ni GIGN, ni service de déminage. Après les meurtres et les pillages d'une France qui nous dévisage. Plus question de sourire comme dans Benetton, plus question de pleurs comme au Téléthon. Et puis même d'outre-tombe, ça peut péter les plombs. Parole d'une tête de con sur une bête de son. Mate nos gueules de macaque et prend peur. Non, moi, rien à péter d'une France plaque, blanc, peur. Que de rancœur et de noirceur pour âme sœur. Voilà le chant des casseurs. J'ai repris le fouet du dresseur, à mon tour agresseur. Ne soyons plus chassés, mes chasseurs. Que de rancœur et de noirceur pour âme sœur. Voilà le chant des casseurs. J'ai repris le fouet du dresseur, à mon tour agresseur. Ne soyons plus chassés, mes chasseurs.
One, two, three, four.